RFI, 7h30, à Paris, 6h30 en temps universel. Et un nouveau point sur l'actualité africaine avec vous, Arthur Panchelet.
À la une ce matin, nouvelle passe d'armes entre la France et l'Algérie. Hier, François Bayrou a menacé de remettre en cause les accords de 68 entre Paris et Alger. La relation s'était déjà considérablement rafraîchie ces derniers mois. Nous appelons à la paralysie totale du pays, les mots du chef de l'opposition en Guinée-Bissau. Journée sous tension pour protester contre la prolongation du mandat du président Oumaro Sissoko Embalo. Ils disent refus de jouer à ce cinéma. Au Mali, 200 partis politiques ont boycotté les consultations pour élaborer la charte pour la paix et la transition. Même son de cloche du côté du front de libération de l'Azawad, vous l'entendrez. Au sommaire également, on est au Togo où la demande de libération provisoire du poète Affectio a été refusée hier. En Côte d'Ivoire où 84 tonnes de cacao de contrebande ont été saisies. Et puis au Gabon où nous emmène notre dossier ce matin consacré aux langues maternelles. Elles sont souvent en voie de disparition sur le continent. On verra comment on se mobilise pour les sauver.
Pas de volonté d'escalade avec l'Algérie, dit François Bayrou, mais le Premier ministre français demande à Alger de réexaminer les accords de 1968.
Déclaration hier à la sortie du Conseil interministériel sur l'immigration, réunion convoquée après l'attentat de Mulhouse commis par un ressortissant algérien. Il était frappé d'une OQTF, obligation de quitter le territoire, mais avait été renvoyé à 14 reprises par l'Algérie. Alger, dont la relation avec Paris se dégrade encore un peu plus, avec donc Paul Langerie, cette demande de réexamen des accords de 68.
Cet accord qui confère un statut unique aux Algériens et facilite leur circulation entre les deux pays a été révisé à 3 reprises, restreignant ainsi leurs conditions d'entrée. Un principe souvent débattu au Parlement français, comme en 2023, lorsqu'une proposition de loi en faveur de l'abrogation de ce traité a été déposée par les Républicains.
Revenir à chaque fois aux accords de 68, il y en a marre.
Liazid Benhami est membre du groupe de réflexion sur l'Algérie, mais c'est en tant que franco-algérien qu'il souhaite s'exprimer.
Les gens qui viennent d'Algérie, ils déposent leur visa au consulat français à Alger ou ailleurs, ils ne viennent pas avec une stratégie parce qu'il y a des accords de 68. Je vous le dis honnêtement, c'est ridicule.
Selon une spécialiste du Maghreb, la déclaration du Premier ministre français est un positionnement pour certains acteurs politiques français, et les deux pays en sortent perdants. Difficile pour autant de dire quels seront les effets si Paris décidait de dénoncer l'accord. Pour Pierre Vermeeren, historien spécialiste du Maghreb, cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de visas délivrés par la France.
Les 250 000 visas que la France accorde actuellement à l'Algérie, qui sont dans la sellette, peut-être pas en totalité bien sûr, mais en tout cas en grande partie, si l'accord de 68 venait à être réduit.
Selon l'historien, un autre accord pourrait être dans le collimateur des autorités françaises, celui de 2013, portant sur l'exemption de visa pour les Algériens détenant un passeport diplomatique.
Paul Langerie, ces tensions entre Paris et Alger, on en parle en longueur dans une demi-heure. Ce sera le dossier du 8h avec Aurélien Devernois. Prouver toutes les responsabilités et construire de nouveaux partenariats. En RDC, le bilan de la visite de Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a quitté Kinshasa hier et sur RFI. Il dit soutenir la création d'un tribunal spécial pour le Congo. Des déclarations alors que le M23 soutenu par le Rwanda poursuit son avancée dans l'est du pays. Depuis 6 jours, des combats sont signalés dans les hauts plateaux du Sud Kivu, combat qui oppose l'armée congolaise et ses alliés burundais d'un côté et une milice locale alliée au M23 de l'autre. Elle appelle à une paralysie totale du pays. En Guinée-Bissau, l'opposition vent debout. Au cœur de la colère, le mandat du président Oumaro Sissoko Embalo, il doit se terminer aujourd'hui, estiment ses opposants, soit 5 ans après sa prestation de serment. Mais dimanche dernier, le président a décalé la date des élections législatives et présidentielles au 30 novembre prochain. La Cour suprême avait pourtant fixé l'échéance au 4 septembre. Alors comment expliquer cette confusion autour de la date de fin de mandat? Écoutez la réponse d'Alex Vines, il est directeur du programme Africa Chatham House à Londres.
La Guinée-Bissau fonctionne selon un système semi-présidentiel fondé sur une constitution adoptée en 1993. Ce système engendre des visions concurrentes du rôle de l'exécutif, ce qui crée une confusion sur la durée du mandat présidentiel. Le président Embalo a suspendu les élections l'année dernière et il y a maintenant une contestation sur la date à laquelle elle devrait se tenir. La Cour suprême n'est pas vue comme un organe indépendant, mais comme étant influencée par le président Mbalo, selon l'opposition. Cela alimente la méfiance et la confusion concernant le calendrier électoral. Le président Mbalo semble être confiant sur le fait que ces élections se tiendront en novembre de cette année. Il y a des interrogations sur sa volonté de briguer un second mandat. Il a déclaré publiquement que sa femme l'avait convaincu de ne pas se représenter, mais tous les signes indiquent qu'il envisage de revenir sur cette décision.
Propos recueillis par Christina Okello. Actualité politique aussi au Mali, où après plusieurs mois de travail, la commission chargée de rédiger un projet de charte pour la paix et la réconciliation a produit un document de base. Seulement voilà, Serge Daniel, la phase d'élaboration de ce texte a été boycottée par de nombreux partis politiques, mais aussi par des groupes armés du Nord. Ils ont affirmé hier ne pas se sentir concernés par le projet.
Diagnostic de la situation politique, sécuritaire et sociale du Mali, ainsi que des propositions pour une réconciliation durable entre les fils d'un même pays, le projet de la charte pour la paix se veut ambitieux, mais plus de 200 partis politiques sur environ 500 ont boycotté les rencontres avec la commission de travail qui recevait les contributions des uns et des autres. Alassane Agba, secrétaire général du parti CODEM, explique pourquoi ce boycott.
Nous, on joue pas à ce cinéma. La paix, ça se recherche. Ce sont pas pour des simulacres. Contenir les gens, les empêcher de dire ce qu'ils pensent et qu'ils ne parlent que du bout des lèvres, étouffer les problèmes, c'est étouffer un problème qui va forcément rebondir après. Nous ne sommes pas pour ces procédures, nous pensons qu'elles ne rapporteront absolument rien.
Le Front de Libération de l'Azawad, mouvement armé indépendantiste du nord du Mali, a également refusé de participer aux discussions, je cite, non inclusives. En recevant la commission chargée du projet de la charte pour la paix, des membres du Parlement de transition, le CNT, ont formulé de leur côté des demandes pour une véritable réconciliation, notamment retour à l'ordre constitutionnel, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Serge Daniel, Dakar, RFI.
6h37 en temps universel, arrêté pour un poème et derrière les barreaux en attendant son procès. Au Togo, Affectio était devant les juges hier.
Audience à la cour d'appel de Lomé pour statuer sur la demande de liberté provisoire de l'activiste, demande rejetée par les magistrats. Affectio avait été interpellé et incarcéré pour avoir diffusé un poème intitulé « Fait à part ». Écoutez l'un de ses avocats, Maître Paul Dodzi Apévon.
Oui, nous avons relevé appel du rejet de notre demande de liberté provisoire pour Affectio. Le dossier a été plaidé devant la chambre d'instruction et mis en délibéré. Mais lorsque nous sommes arrivés, contre toute attente, la cour nous a dit que notre appel est recevable à la forme, mais au fond, il le rejette. C'est quelque chose d'indescriptible. Parce que qu'est-ce qu'Affectio a fait? Il a publié sur les réseaux sociaux mais sa position, son sentiment par rapport à ce qu'il ressent pour le pays. Il y a un poème qu'il a sorti pour demander aux Togolais fait à part. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal pour qu'on l'arrête? Si le magistrat ne peut plus faire son devoir de magistrat par rapport à l'arbitraire et parce que quelqu'un lui a donné l'instruction arrête mais détient quelqu'un en détention, ça devient problème. Ça devient problème dans notre pays. On apprend qu'ils veulent envoyer le dossier en jugement. C'est ce que nous apprenons dans les couloirs. Ils ont rejeté la demande de liberté provisoire parce qu'ils veulent organiser un procès. Mais nous serons présents au procès. On dira ce qu'on a à dire.
Propos recueillis par notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé. Nouvelle affaire de contrebande de cacao en Côte d'Ivoire. Le 18 février dernier, près de 84 tonnes de fèves ont été saisies par les douanes à Abidjan. Une société a tenté de les exporter, mais en les déclarant comme du caoutchouc naturel, une façon illicite de payer moins de frais de douane. L'enquête est toujours en cours et le reste de la cargaison examiné par les autorités. Deux personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Notre correspondante à Abidjan, Binta Diagne, a pu suivre les équipes de l'unité mobile d'intervention rapide des douanes. Reportage.
Les conteneurs que vous voyez à côté de nous, ce sont des conteneurs qui contiennent du cacao, alors que le transitaire avait déclaré du caoutchouc naturel.
Selon le lieutenant-colonel Hippolyte Ouattara, commandant de l'UMIR, l'unité mobile d'intervention rapide des douanes, les saisies sont régulières. En témoignent ces piles de sacs de café récemment saisies dans un camion qui passait par le Mali pour livrer sa marchandise au Sénégal. Seulement cette fois-ci, cela concerne un produit sensible, le cacao, qui est soumis à une procédure bien précise.
En déclarant du caoutchouc naturel, ils ont voulu faire une exploitation frauduleuse de cacao parce que le DUS, le droit unique de sortie du cacao, est beaucoup plus élevé que celui donc du caoutchouc naturel. Dans notre jargon, on parle d'un glissement tarifaire Et ce glissement tarifaire-là, il est extrêmement important parce que ça touche un produit essentiel pour notre pays, un produit de souveraineté, le cacao, on ne s'amuse pas avec.
Il y a là 84 tonnes de cacao. Difficile pour l'heure de chiffrer l'ampleur du manque à gagner car des contrôles sont toujours en cours concernant le reste de la déclaration de cette livraison interceptée dans le parc à conteneurs d'une société et qui comprend au total 110 conteneurs. Le directeur général des douanes a saisi le procureur du pôle pénal économique et financier. Deux personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Les exportateurs de cacao estiment à près de 50 000 tonnes de produits agricoles vendus de manière illicite dans les pays voisins au dernier trimestre 2024. Binta Diane Abidjan, RFI.
Elles sont de moins en moins parlées et parfois en voie de disparition. Comment sauver les langues locales?
C'est notre dossier ce matin sur RFI, dossier qui nous emmène à Libreville au Gabon. C'est l'un des rares pays qui ne dispose d'aucune langue nationale. Les langues maternelles ou langues vernaculaires sont de moins en moins parlées par les jeunes, mais certaines écoles font tout pour tenter d'inverser la tendance. Reportage d'Yves Laurent Goma.
Samba veut dire bienvenue en Pounou.
Un bravo pour Yens. Deux bravo. Un cri de joie.
C'est le cours préféré de la maîtresse Sylvana Monsunda du complexe scolaire Les Dauphins. L'apprentissage du Pounou, l'une des langues parlées dans le sud du Gabon.
On répète.
L'enseignante elle-même n'a aucune formation pour enseigner cette langue.
En entendant le programme officiel, on anticipe d'abord avec les enfants de cette manière.
Le polyglotte. C'est pour sauvegarder notre identité.
Chaque jour de lundi à vendredi, Radio Gabon organise une compétition en langue nationale. Le polyglotte est l'une des principales initiatives pour inciter les Gabonais à parler leur langue maternelle qui se meurt. Théophile Liemobasango est l'animateur de ce défi qui dure depuis 30 ans.
J'ai 53 minutes par présentation et j'ai un rythme d'un coup de fil par minute.
Antoine Essono, sexagénaire, pense que le colon français a tout fait pour tuer les langues maternelles en obligeant tout élève qui parlait sa langue à l'école de porter un crâne de singe appelé symbole.
La principale conséquence, ça nous amenait à négliger nos propres langues vernaculaires et à privilégier la langue du blanc. Ça a eu des répercussions sur la conservation de nos langues.
65 ans après son indépendance, le Gabon conçoit enfin des outils pédagogiques pour enseigner quelques langues locales à l'école. Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
Autre initiative pour tenter de sauver les langues vernaculaires au Gabon, pour être candidat à la présidentielle, il faut obligatoirement parler l'une des 56 langues locales. Mais est-ce suffisant pour éviter leur disparition? Écoutez la réponse de Franck Idiata. Il est linguiste et chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville.
Pourquoi les langues se perdent? Les langues se perdent à cause du modernisme, à cause du changement de vie. On vit en ville plutôt qu'au village. Or, la langue gabonaise a plus de fonctions dans le village où elle est pratiquée, alors qu'en ville, c'est la langue d'intégration qui est la langue officielle du pays, qui est le français. À cela s'ajoute l'école. L'école en français, la vie du pays en français, l'administration en français, l'église en français, toutes les fonctions de communication en français. Voici la raison qui fait que, malheureusement, de plus en plus d'enfants perdent aujourd'hui les langues des différentes communautés nationales, dites langues nationales.
Et comment faire pour les sauver? Est-ce que c'est irréversible, cette perte?
Je crains que ce soit irréversible pour une grande majorité de langues. Certaines vont résister un peu plus longtemps, celles dont les individus ont finalement pris conscience de leur intérêt et qui vont faire en sorte de les transmettre aux enfants. Voilà la solution. Il n'y a pas de miracle.
Propos recueillis par notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. Voilà pour le journal et je vous laisse en compagnie de Julien Coquel-Rohem.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure.